Bonjour à chacun. Je vous invite à prier pour que le Seigneur, au travers de sa parole ce matin, interroge nos cœurs et nous permette de vivre mieux pour lui, plus pour lui, à fond pour lui. Amen. Alors prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu qui parle. Et au travers de la Bible, des Écritures que tu as données par les prophètes, Seigneur, nous pouvons chaque jour nous plonger dans ta pensée, nous plonger dans ton langage, nous plonger dans ce que, dans ton conseil, dans ce que tu veux nous dire aujourd'hui pour notre vie et dont nous avons tant besoin. Et tu l'as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, Seigneur, nous voulons vivre de la parole qui sort de ta bouche. Nous avons besoin, Seigneur, que notre âme soit nourrie, notre âme d'être humain, Seigneur, est nourri de tant de choses dans ce monde. Tant de choses qui combattent contre ta perfection, contre ta sainteté, contre ta justice, contre ton amour. Et nous avons besoin, Seigneur, de cet antidote, ce qui nous sauve, cette parole qui nous sauve et qui nous permet de vivre et de nous conduire et de penser et de marcher autrement, en accord avec ta volonté. Alors Seigneur, que ce matin, tu touches nos cœurs par ta parole pour que nous puissions vivre notre semaine qui vient davantage à ta gloire, en mettant en pratique et en cherchant vraiment à mettre en pratique ce que nous aurons reçu, ce que nous aurons compris. Tu veux le faire par ton Saint-Esprit. Rends nos cœurs réceptifs et actifs, prêts à se mettre à l'œuvre, prêts à corriger ce qui a besoin de l'être. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite donc à reprendre, au moins pour l'avoir sous les yeux, ce chapitre que nous avons lu, le chapitre 15 de l'Évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 15. Et voilà la question que je pose pour commencer ce message. Combien de jours par semaine sommes-nous les amis de Jésus? Combien de jours par semaine sommes-nous les amis de Jésus? Est-ce que je suis l'ami de Jésus? Est-ce que tu es l'ami de Jésus? Et dans ta semaine, dans les jours qui s'enchaînent, dans ces 7 jours d'une semaine, sur ces 7 jours, combien de jours es-tu l'ami de Jésus? Et si nous sommes venus dans cette église, c'est que nous nous sentons plus ou moins amis de Jésus. Sinon, nous ne serions pas là. Beaucoup ont compris l'évangile pour devenir amis de Jésus et en ont témoigné par le baptême d'eau, en donnant leur témoignage de vie et de conversion. D'autres n'en sont pas encore là peut-être, mais néanmoins sont ce matin assis dans l'église parce que quelque chose chez Jésus les interpelle, les attire. Il y a quelque chose qu'ils aiment chez Jésus. Et tous, nous avons envie de dire, ben oui, je suis ami de Jésus. Alors, Nous allons reprendre un petit peu ce chapitre pour nous poser véritablement la question de façon sérieuse. Combien de jours par semaine je suis ami de Jésus? J'espère beaucoup sur les 7. Ça serait bien 7 sur 7. Ami de Jésus, 7 jours sur 7. Mais je ne suis pas sûr que je puisse dire moi-même que je suis ami de Jésus 7 jours sur 7 quand je lis ce chapitre. Et j'ai besoin de m'interroger profondément. Parce que si je pense être un chrétien, mais que je ne suis pas ami de Jésus 7 jours sur 7, que peut-être 4 jours sur 7, 5 jours sur 7, je ne suis pas ami de Jésus. Alors je suis quoi? Je suis qui? J'ai un double visage? C'est quoi ma vie? Alors nous allons reprendre un petit peu ce que Jésus dit à cet égard. Au verset 9, il dit: comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Et ça, c'est formidable. Nous sommes aimés par Jésus. Amen. Il nous aime et il aime le monde. Et dans le début de l'évangile, Jean dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, nous sommes aimés de Jésus. Mais la question qui se pose, c'est: est-ce que nous, nous l'aimons? Est-ce que nous demeurons dans son amour? Est-ce que nous restons dans son amour? Est-ce que nous sommes ses amis? Je reprends le verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Verset 12, c'est ici mon commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alors, voilà un petit peu ce que dit Jésus. Il dit: je vous appelle mes amis. Mais quand même, il précise quelque chose. Il dit: demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et puis le verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors voilà, moi, une parole dans la bouche de Jésus que j'ai du mal à comprendre. Une parole dans la bouche de Jésus qui me choque. Je comprends pas. Attends, Jésus qui me dit: tu es mon ami si tu fais ce que je te commande. Alors là, chacun de nous, on se projette dans la cour de récréation, hein, avec nos copains, avec nos copines, et puis avec l'autre là, qui dit: moi je suis ton copain, mais si tu fais tout ce que je te dis, hein. Sinon, je suis pas ton copain, je suis pas ton ami. Alors on arrive à la maison: maman, il y a Marcel, il est mon copain, mais que si je fais tout ce qu'il me commande. Alors le parent, il dit: non, mais ça c'est pas un copain. Si pour être ton copain, il faut que tu fasses tout ce qu'il te commande, c'est pas un ami, ça. C'est pas comme ça qu'on réagit, nous, en tant que parents. On dit: attends, si la condition pour que tu m'appelles ton ami, pour que je sois ton ami, pour que tu me considères comme ton ami, c'est que je fasse tout ce que tu me demandes, ça fait un peu grincer des dents quand même, non? Nous, c'est pas cette définition qu'on a. On dit ça, c'est la définition d'un serviteur, d'un employé. L'employé, il fait ce que le patron demande. Le serviteur, il obéit au maître, il fait ce que le maître commande. Et Jésus, curieusement, bizarrement, dit « Je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle ami, et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » On comprend plus rien. Et là, repose cette question, combien de jours par semaine est-ce que je suis ami de Jésus? Jésus me dit, tu es mon ami si tu fais ce que je te commande. Combien de jours par semaine est-ce que je fais ce que Jésus me commande? Combien de jours par semaine est-ce que je ne fais pas ce que Jésus me commande? Ben, ce sont autant de jours où je ne suis pas son ami. Alors nous allons essayer de comprendre un petit peu pourquoi Jésus dit une telle chose qui, d'emblée comme ça, ça nous heurte. Ça nous heurte, on dit non. Il y a une contradiction. On ne peut pas parler d'amitié puis après de dire à condition que tu fais ce que je te commande. Il y a un truc qui cloche. Eh bien non, ça ne cloche absolument pas et nous allons voir pourquoi. D'abord, l'amitié se distingue de l'amour. Et surtout dans le texte grec. Dans la Bible, comme dans le langage grec profane, il y a des mots différents pour parler de l'amour, pour parler de l'amitié. Et à chaque fois que dans la Bible, il nous est demandé de nous aimer les uns les autres. À chaque fois qu'il est dit que Dieu est amour, et d'avoir de l'amour pour l'autre, même pour son ennemi, aimez vos ennemis. C'est l'amour agapé. C'est le mot agapé dans le grec qui est là. C'est l'amour de Dieu, c'est-à-dire cette décision du cœur qui décide d'être en relation envers l'autre, en s'abstenant de lui faire du mal. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Je me refuse catégoriquement dans la relation que j'ai envers l'autre de l'abîmer. L'amour n'abîme pas. Et en plus, dira l'apôtre Jacques, pour celui qui sait faire ce qui est bien mais qui ne le fait pas, il commet un péché. L'amour ne s'abstient pas du bien qu'il peut faire. Des fois, vous avez des gens qui vous disent « Moi, je lui ferai pas de mal. » Oui, mais est-ce que tu lui feras du bien? Pas abuser non plus. C'est déjà pas mal si je me retiens de lui faire du mal. Mais Jésus a dit « Aimez vos ennemis. » Et l'amour ne s'abstient pas du bien qu'il peut faire à l'autre. Alors vous voyez la dimension de l'amour, c'est phénoménal. Quand Jésus, juste avant, a dit à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, ce n'est pas rien. L'amour, c'est cette relation envers son prochain qui se refuse à l'abîmer. L'amour ne fait pas de mal. Et qui ne s'abstient pas de construire, qui ne s'abstient pas du bien qu'il peut faire. Ça, c'est l'amour agapé. L'amitié, c'est autre chose. L'amitié, être un ami, dans le grec, c'est le mot « philia » qui a donné en français plusieurs mots, comme la philatélie. Ce sont ceux qui apprécient et qui aiment les collections de timbres. Comme le prénom Philippe. Phil, hip, hip, c'est hippo, comme un hippodrome. Hein, ça veut dire cheval, hein, hippo, c'est la racine en grec pour cheval, un hippodrome. Philippe, c'est celui qui aime les chevaux. Voilà, c'est ce que veut dire le prénom Philippe. Bon, bien sûr, vous avez le pédophile. C'est l'ami des enfants. Pas le bon ami. C'est celui qui apprécie. Mais dans le sens, bien sûr, sexuel du terme, qui a une appréciation, un goût. Vous voyez ? L'idée de philia dans le grec. Hein ? C'est-à-dire l'amitié, ce mot, ça signifie, ça suggère être ami de quelqu'un. C'est complètement différent de l'amour que Dieu nous demande d'avoir pour notre prochain. Être ami de quelqu'un, ça suggère une complicité. Ça suggère une collaboration, une connivence, une proximité, une adhésion, une inclusion. Je m'inclus dans le groupe, je suis ami avec. Une participation. C'est quand même curieux quand on est ami avec quelqu'un, mais qu'on ne fait rien ensemble. Je dis, c'est mon ami, mais je ne peux rien faire avec lui. Ah, c'est bizarre ça. Je ne participe à rien. On ne se parle même pas. Curieux. C'est que tu es fâché avec ton ami. Hein? Non, l'amitié, c'est l'idée d'un partage. Il y a quelque chose qui se partage, il y a l'idée d'une communion. Et donc, lorsque nous nous posons la question, suis-je ami de Jésus ? La question, c'est ça. Est-ce que dans ma vie, j'ai une adhésion, une communion, une participation, une complicité, une collaboration avec Jésus. Alors, le texte et plusieurs autres textes que nous allons étudier vont nous faire comprendre à quoi tient l'amitié. Lorsque nous sommes amis avec quelqu'un, c'est que nous apprécions quelque chose chez lui. Il y a un ou des atomes crochus, il y a des choses qui nous plaisent, dans lesquelles on se reconnaît et qu'on va pouvoir discuter, partager ou faire ensemble. Peut-être on a le même intérêt pour la littérature et on apprécie échanger sur la littérature. Et on a trouvé un ami avec qui on discute littérature et c'est agréable. Peut-être on aime le cinéma, on est cinéphile et puis on va discuter sur des films. Ou peut-être c'est le sport qu'on apprécie, etc. Et puis il y a les qualités morales de la personne. Seulement, peut-être un jour vous découvrez qu'un de vos amis... Eh ben tiens, et pédophile. Là, vous tombez de votre nuage et vous dites, mais je ne le connaissais pas comme ça, je ne pensais pas ça de lui, je ne croyais pas ça de ses valeurs. Ben, j'ai du mal à continuer à être son ami. En tout cas, plus de la même manière. C'est mon ami, oui, enfin, si on veut, enfin... Et je pense simplement à quelques articles que j'ai lus cette semaine sur des témoignages d'anciens amis de ce fameux Nordal Lelandais qui fait l'actualité en ce moment. Et plusieurs de ses amis ont écrit, mais on ne croyait vraiment pas ça lui, on ne le connaissait pas comme ça. Et même il s'adresse à lui en lui disant, tu n'es plus mon ami. Après ce que tu as fait. Il y a quelque chose que je ne partage pas. Voilà. Il y a quelque chose, il y a une communion que je ne peux pas avoir avec toi. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir part. Peut-être vous découvrez qu'un de vos amis est profondément malhonnête et en fait est un escroc. Et là, vous allez dire, ben, il baisse dans votre considération. Tout d'un coup, vous avez de l'amitié, mais tout d'un coup, votre amitié, elle prend un coup parce que la considération, le respect que vous aviez pour cette personne, ça vient de descendre d'un étage parce que vous venez de le découvrir sous sa facette d'escroc. Peut-être un de vos amis, vous découvrez que en fait, ça ne lui fait ni chaud ni froid de tromper sa femme avec des prostituées. Voilà, vous ne le saviez pas, puis tout d'un coup, il y a une facette de sa vie où vous dites « Ah, je crois qu'on n'a pas finalement les mêmes valeurs. Ah, on ne partage pas les mêmes valeurs. Je ne pensais pas qu'il était comme ça. Je viens de me rendre compte que nous n'avons pas tant de choses en commun. En tout cas, ça en dit long sur sa moralité, dans ce qu'il est, dans ce qu'il pense. Et ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie de partager avec lui. » Il devient un peu moins votre ami. Peut-être vous découvrez que telle personne avec qui vous avez de l'amitié, il vote pour un parti politique que vous n'appréciez pas du tout. Peut-être il vote communiste, peut-être il vote Front National, peut-être il vote socialiste, que sais-je. Et vous dites, ah là, ça va pour... Ça, non. Alors là, c'est pas possible. Et il y a plein de choses comme ça où on s'aperçoit qu'en fait, l'amitié et la profondeur de l'amitié, elle dépend de ce qu'on va pouvoir apprécier et partager de ses propres valeurs avec celui qu'on a en face. C'est vraiment le philia grec, Philippe, qui aime les chevaux, on partage la passion des chevaux, la philatélie, l'amour des timbres, etc. Ce que vous voulez, c'est ce philia, c'est le fait qu'on partage et qu'on affectionne quelque chose qu'on a en commun. Voilà. Et notamment des valeurs. Alors, est-ce que je suis l'ami de Jésus ? Ça me pose la question, quelles sont les valeurs de Jésus ? Qu'est-ce que je peux partager avec Jésus ? Jésus nous dit, au verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Ça, c'est très important. Pourquoi nous appelle-t-il amis ? Parce qu'il nous a ouvert son cœur, son intimité, sa pensée, ses valeurs. Et tout son cœur, toute sa pensée, toutes ses valeurs, c'est ce qui vient du Père. Et donc, la question de l'amitié, c'est ce partage de cœur et de valeurs. Et Jésus dit, moi, tout ce que j'ai appris du Père, ce que Dieu le Père il est, dans sa nature la plus profonde, dans sa bonté, dans son amour, dans sa sainteté, dans sa justice, tout ce que Dieu est, comment Dieu pense, ce qu'il fait, ce qu'il œuvre, eh bien, il me l'a appris. Et moi, je vous ai partagé. À vous, mes amis, nous partageons ces choses fondamentales, ces choses de l'existence qui... Il n'y a pas de plus grande chose, parce que ce sont des questions de vie, des questions de mort, des questions de bien, des questions de mal. Tout ce qu'un être humain, la manière dont il vit, dont il se conduit, dont il se comporte, de la manière dont il est en relation avec les autres, toute la pensée de Dieu est au centre. Et Jésus dit, moi je voulais partager. Est-ce qu'on partage ? Et Jésus nous pose cette question, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs ? En prison, il y a des gens qui deviennent amis parce qu'ils partagent les mêmes valeurs. Les valeurs du crime Et il trouve des nouveaux amis pour monter des nouvelles combines et pour se perfectionner dans l'art qui est le leur. C'est en prison qu'on se radicalise le plus. Oui ou non? Parce que, ben voilà, il y a un terrain, il y a un terreau où on devient amis parce qu'on partage les mêmes choses. On trouve un face-à-face, un vis-à-vis. Oh, dans le mal, peut-être. Ici, la question que Jésus nous pose, c'est voilà, moi, je reflète le Père, je reflète Dieu, tout ce que j'ai appris du Père, je vous l'ai enseigné, je vous l'ai dit, je vous le partage, c'est ce qui m'habite, c'est ce que je suis, c'est ce qu'est le Père et moi, nous sommes un. Est-ce que vous êtes mes amis? Et Jésus nous demande, est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Est-ce que vous entrez dans mes valeurs? Est-ce que vous allez partager avec complicité, avec connivence, avec communion, avec implication, avec participation, avec adhésion, toute l'amitié? Ces choses de l'âme, ces choses de la vie, cette manière de penser qui est celle de Dieu. Alors, allons maintenant dans l'épître de Jean, 1 Jean 2. Un Jean au chapitre 2 et le verset 15. Nous allons maintenant avoir le contraste entre les valeurs du monde et les valeurs de Dieu, entre ce que le monde propose et ce que Dieu propose, entre comment le monde pense et ce que Dieu pense. Au verset 15, il dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Voilà. Il dit « Soit vous êtes mes amis, soit vous ne l'êtes pas. » Il n'y a pas d'entre-deux. Il dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Ne vient point du Père. Jésus a dit, moi, je vous ai appris tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai dit. Il dit, mais tout ce qu'il y a dans le monde, ça ne vient pas du Père. Alors vous ne pouvez pas être ami du monde et ami de Dieu. Ce n'est pas possible d'être ami de Dieu et ami du monde. En d'autres termes, ce n'est pas possible, par exemple, à la fois d'avoir pour valeur l'honnêteté, puis en même temps, de pratiquer la malhonnêteté en disant moi ça va bien la malhonnêteté c'est moi ça me fait rien ou la fidélité ah ben moi je suis pour la fidélité dans le couple et puis en même temps vous trompez votre femme oui ça me fait rien de tromper ma femme on peut pas il y a une incompatibilité à un moment soit on est à gauche soit on est à droite et là Dieu nous dit ben soit on aime le monde soit on aime Dieu mais les deux ne sont pas compatibles. Jacques 3, verset 4, va encore plus loin. Épître de Jacques, chapitre 3, pardon, chapitre 4, chapitre 4, verset 4, Jacques 4, 4. Il dit « Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Je vous fais par exemple, je prends l'exemple de la guerre de sécession en Amérique avec l'abolition de l'esclavage. Ben voilà, soit on est pour l'abolition de l'esclavage, soit on est pour l'esclavage et on choisit son camp et on prend les armes d'un camp ou de l'autre. On ne peut pas être à la fois sudiste et nordiste en disant ben, « je suis pour l'abolition, mais en même temps, ça va bien s'il y a des esclaves ». Non, si tu es pour l'abolition de l'esclavage, tu te rends ennemi de ceux qui veulent conserver les esclaves dans leurs plantations de coton, etc. Et contrairement, voilà, tu te rends ennemi. Et là, il nous dit « celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu ». Pourquoi ? Ben parce que dans les choses les plus profondes du cœur, dans les choix et les décisions qui concernent le bien et le mal, qui concernent le fait de s'abîmer soi-même et d'abîmer les autres ou pas, ce que Dieu appelle donc le péché. C'est toute la question du péché. Dieu nous, la pensée de Dieu, elle est sainte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en lui de péché. Et il ne veut pas que nous marchions dans le péché pour nous abîmer, pour abîmer les autres. Mais la pensée du monde, parce que le prince de ce monde, c'est Satan, elle s'accommode du péché. Elle trouve des avantages dans le péché. Et il y a un sérieux problème. Et donc, nous voyons que si nous nous prétendons amis de Jésus, ça veut dire que nous apprécions et que nous embrassons et que nous adhérons à comment Jésus pense. Et il pense comme le Père. Une manière de penser qui est à l'opposé de la pensée du monde et qui est même ennemie de la pensée du monde. Et je signifie d'ailleurs juste que ce passage de Jacques 4:4, où il dit « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Le mot « amour » ici, c'est le seul mot de tout l'Évangile, de tout le Nouveau Testament, où ce n'est pas le mot « agapé », donc « amour agapé », mais c'est l'amour « philia », l'amitié. C'est le seul, il n'y en a pas d'autre à d'autres endroits. Le seul endroit de la Bible où dit c'est l'amitié du monde, c'est-à-dire ce sentiment philéo qui apprécie, qui est de connivence, qui est de mèche avec le monde. C'est cet amour-là dont il s'agit ici, c'est l'amitié. Dieu n'est pas du tout en train de dire il ne faut pas aimer le monde de l'agapé, hein, car Dieu a tant aimé le monde. Mais c'est l'amour, la juste relation aux autres. Ici, ce n'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment l'amitié du monde, c'est-à-dire être de mèche, partager les mêmes valeurs, être copain comme cochon, quoi. Hein. Ben oui. Voilà, on est bien, quoi. Partage des trucs. Et non, cette amitié-là, elle est ennemie de Dieu. En Colossiens 1:21, Colossiens chapitre 1 verset 21 nous dit à propos de ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ont été lavés de leurs péchés, il dit comment ils étaient autrefois. Il dit vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, mais il vous a maintenant réconciliés. Comment j'étais avant d'être sauvé par Jésus-Christ ? Ben, j'étais un être humain étranger et ennemi de Dieu. Étranger et ennemi. Nous revenons à l'évangile de Jean, au chapitre 15. Et vous allez regarder ce verset 21. Quand Jésus dit, serviteur n'est pas plus grand que son maître, verset 20, si m'ont persécuté, vous persécuteront aussi. Le verset 21, ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire qu'ils y sont étrangers, ils sont étrangers de Dieu. Le sens de qu'il y a là, ils ne connaissent pas, c'est vraiment cette idée d'être moi, j'ai aucune part avec, je suis étranger. Parfois, vous avez un vol qui est commis dans une entreprise et on vient vous questionner, vous dites, ah ben moi je suis étranger à toute cette affaire. Je n'ai rien à voir avec. J'ai rien à faire avec ça. C'est pas moi. Ça me concerne pas. Je suis étranger à cette affaire. C'est-à-dire que vous n'en savez rien, vous n'y connaissez rien. Ça ne... Voilà. Ben, cette idée de, ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé, c'est vraiment cette idée de, moi, je suis étranger de Dieu, j'ai rien à voir à faire avec lui. Alors, être ami de Jésus, ce n'est pas être un étranger de Jésus. Regardez le verset 19. Jésus est en train de préciser son concept de ce que c'est qu'être ami de Jésus. Le verset 19, Jean 15, 19, juste avant, il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, je vous ai choisi du milieu de vous, à cause de cela, le monde vous hait. Relevez cette expression, si vous étiez du monde aimerait ce qui est à lui. Ben oui, on se reconnaît dans les autres quand on partage les mêmes valeurs. Quand on partage les mêmes valeurs, ben on s'aime bien, on est des amis. On se reconnaît les uns les autres dans les mêmes valeurs qu'on partage. Donc on s'apprécie. Et là, Jésus dit non. Comme vous n'êtes pas du monde et que vous... Il ne peut pas aimer quelque chose qui est à lui, en vous, puisque vous n'êtes pas du monde. Vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Et quelqu'un qui a des valeurs diamétralement opposées aux nôtres, c'est difficile de l'apprécier. Nous avons du mal à être amis avec des gens qui ont des valeurs diamétralement opposées. Voilà. Ben, les valeurs de Dieu et les valeurs du monde sont diamétralement opposées. Éphésiens 5, versets 7 et 8 dit « N'ayez aucune part avec eux. » N'ayez aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Et donc nous revenons à Jean. Et juste avant de parler de la vigne, regardez le tout dernier, l'avant-dernier verset du chapitre 14, Jean 14, 30. Jésus dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, c'est de Satan, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Ça c'est fort. Il n'a rien en moi. Satan, il n'y a pas un petit domaine de ma vie, il n'y a pas un petit domaine de mon cœur où Satan a pu poser une de ses valeurs. Une des valeurs qui lui appartient à Satan, eh bien non. Et Jésus dit, il n'y a rien. Pas un ongle, pas un cheveu. Et il nous dit, vous pareil, n'ayez aucune part. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alors, nous comprenons. Je repose cette question, combien de jours par semaine est-ce que je suis l'ami de Jésus ? Jésus dit, tu es mon ami si tu fais ce que je te commande. Pourquoi ? Parce qu'être ami, c'est partager les mêmes valeurs. C'est avoir cet attachement réciproque. Pourquoi ? Parce qu'il y a une communion, il y a une complicité. On se retrouve dans les choses les plus fondamentales. Et il y a le cœur qui vibre ensemble. Et Jésus dit, moi ce que j'ai appris du Père, je vous l'ai dit. Est-ce que vous êtes mes amis? C'est-à-dire, est-ce que vous partagez les valeurs qui sont celles du Dieu créateur? Si vous les partagez, vous allez les vivre. Si vous les partagez, vous allez les mettre en pratique. Et c'est pour ça, il dit, si vous gardez mes commandements. C'est facile de dire, moi je suis pour l'honnêteté, et puis de faire une fausse déclaration au fisc. Il y a un problème. On dit, moi j'ai ça comme valeur, mais je me conduis autrement. Jésus dit, mais non. Si vous êtes mes amis, vous aimez, vous partagez ce que je pense, vous partagez les valeurs de Dieu et non pas celles du monde. Et vous allez les mettre en œuvre dans votre vie. Et voilà pourquoi Jésus se permet de dire quelque chose qui peut nous sembler bizarre au départ. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ça n'a rien à voir avec la petite fille autoritaire de la cour de récréation qui va dire « toi, t'es ma copine que si tu fais tout ce que je te commande » et qui va mener à la baguette l'autre comme un tortionnaire. Hein. L'amitié de Jésus, quand il dit « si vous faites ce que je vous commande », il est en train de dire « si vous partagez au plus profond de vous-même les valeurs de Dieu de mon Père, qui sont les miennes, et que vous les mettez en œuvre dans votre vie. » Eh bien là, oui. Là, on va être amis parce qu'on est sur la même longueur d'onde. On est sur la même longueur d'onde. Mais quand on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, il n'y a pas d'amitié. Mais ça n'empêche pas Jésus d'aimer de l'amour agapé. Vous voyez la différence? Jésus a aimé. C'est-à-dire qu'il est dans cette relation qui veut le bien, qui, dont l'émotion est là pour le pécheur, même celui qui est perdu. Mais par contre, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Combien de jours par semaine est-ce que je suis sur la même longueur d'onde avec Jésus? Combien de jours par semaine est-ce que je fais ce qu'il me commande? Nous allons voir maintenant, pour terminer, comment être l'ami de Jésus? Comment réussir à être l'ami de Jésus, à faire ce qu'il nous commande? Allons tout d'abord en 1 Jean, toujours le même évangéliste, mais qui a écrit aux églises. Nous allons en 1 Jean 5, et au verset 3-4, là aussi, il nous rappelle quelque chose qui commence à nous être familier, puisque Jésus avait dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». Ici, il dit « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements ». Tu dis que tu aimes Dieu? Prouve-le en gardant ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Ben, si on partage les mêmes valeurs, est-ce que mettre en œuvre ces valeurs est de nature à être pénible? Non. Comprenez? Si vous aimez le chocolat et que je vous dis, tiens, tu veux un peu de chocolat? Ça va, c'est pas trop dur de tendre le bras et de le prendre et de le manger, non? Eh bien, quand on aime ce que Dieu aime, quand on partage profondément les valeurs de Dieu, ben les commandements de Dieu, comme dira le psalmiste ou l'apôtre Paul, « Combien j'aime ta loi !» Par contre, parfois, le problème, c'est que nous aimons, dit Paul, la loi, les commandements de Dieu, nous comprenons dans notre cœur, mais on trouve en nous-mêmes une autre loi, la loi du péché, la loi de la chair, qui vient combattre. On aimerait vivre fidèle à Dieu, mais on voit un combat qui vient s'opposer à tout ça. On aimerait suivre Jésus et on est pleinement d'accord et on aime comment il pense. Mais on a du mal à le mettre en œuvre dans notre vie. Alors regardez, ce verset dit: l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous avons toujours en opposition la façon de penser du monde et celle de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Là, l'apôtre Jean est en train de nous dire: le chrétien, il est en mesure d'aimer Dieu, c'est-à-dire de garder, de pratiquer ses commandements et ses valeurs, sans qu'il le vive comme quelque chose d'immensément pénible pour lequel il va lutter. Il dit non, il y a une victoire, il y a un triomphe sur cette loi du péché, sur cette loi de la chair qui va à l'encontre. Dit ce qui est né de Dieu triomphe, et la victoire qui triomphe, c'est notre foi. Ailleurs, dans l'Épître aux Romains, il nous dira que ce qui est né de Dieu, et c'est le symbole du baptême, nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec lui pour vivre en nouveauté de vie. Et le corps du péché a été crucifié avec Christ. Nous ne sommes plus esclaves du péché pour lui obéir. Nous pouvons dire non au péché parce que Christ a vaincu. Et la victoire de Christ, c'est la nôtre. Et nous pouvons proclamer la victoire de Christ, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et nous pouvons, lorsque nous sentons, par exemple, une tentation qui vient combattre contre le commandement de Dieu que nous aimons, nous pouvons dire: Seigneur, je ne suis plus obligé d'obéir au péché. Seigneur, je crois que tu es mort pour moi, que tu as vaincu le péché, et que j'ai aussi cette victoire sur cette tentation. Et qu'est-ce qui triomphe? C'est la foi. Lorsque nous croyons que Jésus nous a délivrés du pouvoir du péché, alors nous triomphons. C'est important que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas démunis. Dieu ne nous demande pas de combattre de manière personnel contre le péché avec nos propres forces humaines, mais il nous demande de saisir par la foi une victoire qui est celle de Christ. Ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il y a en moi quelque chose, je suis né de nouveau quand j'ouvre ma vie à Jésus-Christ, je passe par la nouvelle naissance, il y a une nouvelle nature qui m'est donnée, c'est ça la nouvelle naissance. Une nouvelle nature, et cette nouvelle nature, elle triomphe de l'ancienne. Cette nouvelle nature, ce qui est né de Dieu et qui est attesté par le Saint-Esprit en moi, il n'a pas de part avec le péché, et il est capable de triompher du péché. Et il dit: non, Seigneur, je suis né de nouveau, j'ai cette nouvelle nature, et le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Je dis non au péché. Et la tentation qui est alors là, parce que nous proclamons la victoire de Christ, parce que nous proclamons notre victoire en Christ, par la foi, cette victoire qui triomphe du monde, et qui permet de garder les commandements sans que ce soit pénible, c'est au rendez-vous. Et nous pouvons faire cette expérience, face à la tentation, face à quelque chose de difficile dans notre vie, de dire: oh, au fait, c'est difficile pour moi, pour mon ancien homme. Et la nouvelle nature que j'ai reçue de Dieu, ce qui est né de Dieu en moi, ben il triomphe. Merci Seigneur, parce que je triomphe du péché. Jésus le dit un petit peu autrement ici. parce que ça peut paraître un petit peu curieux. C'est à travers de la parabole du vigneron. Nous revenons donc à Jean 15. Nous avons vu aimer Dieu, être ami de Jésus, c'est garder ses commandements, c'est avoir, être sur la même longueur d'onde. Mais comment le vivre ? Par la victoire qui triomphe du monde. Et Jésus va dire la chose suivante. Au verset 4, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus est en train de prendre l'image d'une vigne. Nous, en France, on a beaucoup de vignes parce qu'on produit beaucoup de vin. Il dit, voilà, pour porter du raisin, c'est le fruit, hein, le fruit de la vigne, c'est le raisin. Vous voulez des belles grappes de raisin, vous voulez beaucoup de raisin. Eh bien, il va falloir un vigneron ou un viticulteur qui s'y connaît pour prendre soin de la vigne. Et vous avez le tronc, c'est le cep. Puis après, vous avez des petites branches, ce sont les sarments, qui vont porter les grappes de raisin. Donc nous avons le gros tronc, hein, le cep. Et c'est du cep qu'il y a toute la sève, qu'il y a tout ce qu'il faut, qui va le donner aux petites branches, aux sarments, et les sarments vont porter du fruit. Mais imaginez maintenant qu'on détache la petite branche, on se dit, tiens, j'ai détaché la petite branche, toute seule dans son coin, elle va peut-être quand même pousser du raisin. Eh ben non, on s'aperçoit que malheureusement, si le sarment, la petite branche, se détache du tronc, se détache du cep, eh ben elle ne va pas donner de fruits. Elle va sécher. Ça va devenir un morceau de bois tout sec. Un sarment de vigne, et c'est très bien pour le barbecue. Ça flambe bien. Jésus est en train de dire, moi je suis le cep. Moi, je suis le tronc. Et vous, vous êtes les petites branches qui doivent porter du fruit. Mais si vous n'êtes pas attaché en moi, si vous ne demeurez pas en moi, comment voulez-vous que je vous communique ma vie ? Comment voulez-vous que je vous communique ma force ? Comment voulez-vous que je vous communique cette sève qui va faire que vous pouvez porter du fruit ? Donc, nous comprenons bien que pour qu'il y ait du raisin, il faut que la petite branche, hein, le sarment qui porte le raisin, il faut qu'il y ait tout, il y ait quelque chose qui circule dans l'arbre, dans le tronc, ça part du tronc, puis ça va dans les branches. Et s'il y a une coupure, eh ben, ce qui circule est interrompu. Et ça sèche. Il n'y a plus de vie. Eh bien, c'est pareil pour nous. Si je veux garder les commandements, ces commandements qui ne sont pas pénibles, est-ce que je peux le faire par moi-même ? Non. Il dit, toi tout seul dans ta nature, tu ne pourras pas le faire. Mais ce qui est né de Dieu peut le faire. Ce qui est né de Dieu, ce qui est attaché à Dieu, alors Dieu va te communiquer la force, la puissance, l'énergie pour marcher d'une manière digne de Dieu et pour porter du bon fruit dans ta vie. Et nous avons besoin vraiment de nous repasser la fin du verset 5, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le mot exact qu'on trouve dans une autre version, c'est séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que je suis attaché à Jésus si bien que la vie de Jésus coule dans la mienne comme le cep jusque dans les sarments. Et parce que la vie de Jésus coule dans la mienne, parce que je suis en proximité avec lui, parce que je demeure en lui, parce que je suis attaché à lui, parce que j'écoute sa parole, parce que je lui parle, parce que je mets ma vie en règle avec lui, parce que je suis en communion avec lui. Alors la vie de Jésus coule en moi et elle porte les bons fruits qui sont selon Dieu. Combien de jours par semaine est-ce que je suis comme un sarment détaché du cep? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. On a dit tout à l'heure, combien de jours par semaine est-ce que je suis ami de Jésus? Ben, la question qui va avec, c'est combien de jours par semaine est-ce que je suis un sarment attaché au cep, ou combien de jours par semaine est-ce que je suis un sarment qui dit, tiens... Je vais voir si ça peut marcher tout seul ailleurs qu'en Jésus. Enfin, peut-être parce que je m'attache au monde. Hein. L'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et là, tout est là la question. Ça veut dire quoi, le fait d'être un sarment qui me détache du cep, de Jésus? Ça veut dire que je vais m'attacher au monde. À un moment, dans mes valeurs, dans ce qui dirige ma vie, les principes directeurs de ma journée, c'est plus Jésus qui règne. Les principes directeurs de ma journée, je me lève le lundi, ben les principes directeurs de mon lundi, hélas, ne coulent pas de Jésus, ne proviennent pas de Jésus. Ils ne prennent pas leur origine en Jésus. Ils prennent leur origine en moi-même, en ce que j'ai envie de faire, en... Voilà. Mais pas en Jésus. Oh, je ne vais peut-être pas faire de trop grosses bêtises, hein. Ça ne veut pas dire. Mais ça veut dire que je ne suis pas du tout en communion avec Jésus. Je vis ma journée par moi-même, je ne suis pas attaché au cep. Et ma vie ne porte pas de fruits. Ma vie ne porte pas de fruits. Ou peu de fruits. De temps en temps, je me rattache au cep. Alors, j'ai un petit peu de fruits. 3-4 grains de raisin. Ça doit nous interpeller. Combien de jours par semaine est-ce que je suis attaché à Jésus? Et on peut faire l'état de notre vie chrétienne. Je suis l'ami de Jésus combien de fois par jour? Combien d'heures par jour? Et des fois, quand on y réfléchit, on se dit, j'ai un peu honte. Je passe beaucoup plus de temps détaché de Jésus et attaché au monde. Et c'est vrai, ma vie, du coup, elle est pauvre en fruits. Elle est pauvre en fruits. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, et on va terminer par là, le profit du sarment qui est ami de Jésus. C'est franchement dommage parce qu'on rate tout. On passe à côté. Si je suis un, ou je pense, je me prétends, je me dis, et c'est vrai, je suis un ami de Jésus sur le principe, j'aime Jésus, mais concrètement dans ma vie, en fait, de tous les jours, Jésus me dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors, tu en es où? Est-ce que tu es attaché à moi ou tu n'es pas attaché à moi aujourd'hui? Ah ben aujourd'hui, Seigneur, tu comprends, c'est difficile. Bon, ben aujourd'hui, tu n'es pas mon ami. Aujourd'hui, tu es l'ami du monde. Tu es l'ami de toi-même. Mais tu n'es pas mon ami. On ne partage pas les mêmes valeurs et tu ne les mets pas en exercice dans ta vie. Eh bien, c'est dommage pour deux raisons que nous trouvons dans ce chapitre et que nous retrouvons ailleurs. La première raison, nous la trouvons au verset 11. Jésus vient de tout dire sur le fait que sans lui, on ne peut rien faire. Et regardez, au verset 11, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Voilà, Jésus est en train de dire « Je vous donne les clés, la clé de la joie. » Vous savez, des fois, il y a une porte. Et vous dites, cette porte, je n'arrive pas à l'ouvrir. Il me manque la clé. Parfois, c'est la clé de la voiture. On a égaré la clé de la voiture. on ne sait pas où elle est, on aimerait bien rentrer dans la voiture, on ne peut pas. On aimerait bien rentrer à la maison, on ne peut pas. On est devant une porte fermée. Et parfois, pour nous, peut-être, la joie, c'est comme une porte fermée. Elle est derrière la porte. On dit, toc, toc, la joie, t'es où? J'aimerais bien de cette joie dans ma vie. Ça me manque. Et on court après le bonheur, on court après la joie. C'est une porte fermée. Jésus dit, tu veux la clé? Tu veux la clé? Attends, je vais te raconter. Tu vois, il y a de la vigne. Tu vois le cep? Tu vois les sarments? Tu vois les fruits? Attache-toi à moi. Apprends à t'attacher tous les jours en moi, à être mon ami, ami de Jésus. Et franchement, si tu le fais, ta joie sera au rendez-vous. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Vous avez vu le cep qui donne la sève au sarment et qui lui donne la force de faire les commandements? Eh bien, cette sève, c'est aussi la joie. Afin que ma joie soit en vous. C'est-à-dire, la joie de Jésus va couler dans les sarments que nous sommes en nous. Il dit, votre joie sera parfaite. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'être ami de Jésus. Mais vraiment, ami. La joie, elle est derrière. Il y a cette porte qui est fermée mais qui s'ouvre. Est-ce que vous dites oui, moi il me manque cette joie? Attachez-vous à Jésus, que Jésus devienne et reste. Il dit demeurez en moi. Votre ami. Si Jésus est mon ami 7 jours sur 7, sa joie sera en moi. Et quand cette joie, elle cesse, elle disparaît, souvent, il ne faut pas chercher très très loin. C'est simplement parce que depuis quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, je suis un sarment qui s'est détaché du cep, qui a fait ses petites valises et qui croit qu'il va faire sa vie tout seul. Mais Jésus dit, séparé de moi, vous ne pouvez rien. La deuxième chose, le deuxième profit, il y a la joie, mais il y a aussi le fait de recevoir ce que l'on demande. Nous le trouvons au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est repris au verset 16. À la fin du verset 16. Afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Formidable. Mais nous le retrouvons en 1 Jean. Ce que vous allez dire, non, c'est une fausse promesse. Non, non. 1 Jean, chapitre 3, verset 22. Donc Jean, nous l'avons vu, parle de l'amour, parle des commandements, parle de la foi qui triomphe. Hein? Et au verset 22, il dit, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements. » Tiens, on retrouve ça. Je le relis. « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandement et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom du Fils, etc. Et que nous nous aimions les uns les autres. C'est le commandement qu'on retrouve en Jean, si vous reprenez Jean 15. Quand Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Juste après, en fait, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il dit... Au verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Il le reprend. Tiens, 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 si je garde les commandements, si je suis ami de Jésus, si je suis attaché à lui, alors je peux demander et je reçois. On le retrouve encore en Jacques. Et c'est le passage le plus fort. Jacques 4. Jacques chapitre 4, on l'a lu tout à l'heure. Hein. C'était le passage qui dit... Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Bon. Eh bien, juste le verset avant, avant de dire ça, Jacques 4, il dit, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Hein? On a des aspirations dans la vie, on aimerait obtenir, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Et ça reste vide. On n'est pas satisfait, on aimerait des tas de choses et elles ne sont pas au rendez-vous. Il dit, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alors on dit, ah ben dans ce cas, je vais demander. Seigneur, donne-moi $1 million que je puisse m'éclater. Et il a dit, si tu demandes, tu reçois. Ah, le problème, c'est que le verset suivant dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il dit, voilà. En fait, toi, tu veux que ta vie soit comblée, tu aurais envie que Dieu te donne ceci, cela, cela, cela. Toi, tu as fait ton petit plan en disant, pour être heureux, pour que je sois vraiment content dans la vie, j'aimerais ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais réussir ça, j'aimerais avoir ça, j'aimerais que ça se passe, j'aimerais... Je vais prier pour ça. Et on prie. Vous dites, je ne reçois pas. Il dit, oui, tu ne reçois pas parce que tu demandes dans le but de satisfaire tes passions. Où sont tes valeurs? Et on en revient à là, est-ce que tu es ami de Jésus? C'est-à-dire, est-ce que tu partages les mêmes valeurs? Ah ben non, moi je partage les valeurs du monde, convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie, tu comprends? Pour ça, j'ai besoin de que Jésus exauce mes souhaits. Hein. Ben non, on ne partage pas les mêmes valeurs. Ça, c'est tes passions. Et donc, il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Voilà. Nous avons la promesse que quand nous sommes amis de Jésus, nous partageons les valeurs de Jésus comme il pense. Et du coup, il va remplir notre vie. Il va nous donner ce que nous allons demander au Seigneur. Nous allons le demander non pas pour satisfaire nos appétits, nos passions, dans l'esprit du monde. Si jamais nous demandons quelque chose au Seigneur, en étant parfaitement attachés à lui, comme un sarment les hauts-cèpes, nous allons demander ce qui est selon sa volonté. Et nous allons le recevoir. Et le Seigneur va le mettre en œuvre. Parce que le Seigneur ne prive d'aucun bien ceux qui marchent dans sa lumière, dans sa volonté. Et le Seigneur donnera juste ce qui est nécessaire pour ses enfants. Et ça, c'est une formidable chose. Nous avons donc deux profits à être amis de Jésus et à ne pas nous arrêter à « Oh, mais les commandements sont pénibles ». Non, deux profits. La joie, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. Vous voulez ouvrir la porte de la joie, attachez-vous à Jésus. Et la deuxième chose, vous voulez une vie où vous avez vraiment l'impression d'être comblé par Dieu. Vous vous levez le matin, vous dites, mais c'est quand même formidable. Seigneur, mets dans ma vie juste ce que j'ai besoin. Formidable. Plutôt qu'une vie où on a toujours l'impression de courir après quelque chose et qu'il nous manque quelque chose et qui on aimerait et ça vient pas. C'est pénible ça comme vie, c'est pénible. Ben, Jésus dit, tu vois, sois mon ami. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Allez, allez. 7 jours sur 7, amis de Jésus. 7 jours sur 7, attaché au cep Ça, c'est le défi que Jésus nous lance. Il dit, sinon, c'est vraiment dommage pour toi. C'est dommage. Alors, frères et sœurs, est-ce que nous voulons relever ce défi? Faisons le point. Combien de jours par semaine j'ai été ami de Jésus, la semaine qui vient de se passer? Vraiment attaché à lui? Partager et à collaborer à son œuvre, à son travail, à ses valeurs. Son œuvre en moi et son œuvre par moi. Puis combien de jours j'étais plutôt déconnecté? J'ai coupé la connexion entre lui et moi. Et j'ai vécu ma journée sans connexion avec Jésus. C'est dommage. Prions. Seigneur, nous voulons te demander ce matin que tu nous aides à faire le point. Nous nous réclamons en tant que chrétiens. Et tu nous réponds, combien de jours par semaine est-ce que tu es mon ami? Vraiment. Vraiment mon ami. Combien de jours par semaine est-ce que tu viens t'attacher à moi? Est-ce que tu veilles à demeurer en moi pour recevoir de moi la vie, pour que ma vie coule en toi, que ma force coule en toi, pour que ma joie coule en toi? À commencer, Seigneur, par écouter tes paroles au travers des Écritures, au travers de la Bible, et puis te parler, te répondre au travers de la prière, ces moments de communication, ces moments de dialogue avec toi, ces moments de face à face où tu nous parles par la parole de Dieu, par la Bible, et où nous te répondons par la prière. Seigneur, que nous puissions comprendre que notre vie de chrétien n'a ni queue ni tête. Si nous sommes des sarments séparés du cep, que tu nous encourages, Seigneur, à changer cela, à nous y attacher, à veiller à cela, pour pouvoir déclarer à chaque fin de notre journée, aujourd'hui, j'ai vraiment été ami de Jésus. Et c'est par son nom que nous te prions. Amen.